Vous écoutez RTL.
Et tout de suite, les secrets des plantes. Bonjour Stéphane Marie.
Bonjour.
Bienvenue, on est ravis de vous accueillir.
Merci.
Au micro de la curiosité. Vous êtes jardinier, vous présentez, vous êtes le rédacteur en chef aussi de Silence à Pousse sur France 5. Est-ce que toutes les plantes de nos jardins ont une utilité ou il y a des mauvaises herbes, comme on dit?
Tout dépend du point de vue, c'est comme le journaliste, mais il est question d'axe. Donc, certaines plantes adventives dans le jardin se retrouvent dans ce livre, qui est un livre sur les plantes médicinales.
Ah, attendez, oula, adventive, c'est quoi ?
Adventive, c'est celle dont on veut pas, c'est ce qu'on appelait autrefois les mauvaises herbes.
Ah, on dit les plantes adventives maintenant, c'est ça ?
Les adventices.
C'est le politiquement correct, on va raconter et feuilleter cet herbier que vous publiez, qui est magnifique, Stéphane Marie. Mais les plantes ont aussi une histoire, c'est pas juste des plantes d'aujourd'hui, on les utilisait depuis des siècles. Et des millénaires peut-être même.
Des millénaires parce que l'usage du lin par exemple remonte à l'antiquité égyptienne et on faisait des bandelettes, enfin les bandelettes des momies sont faites en lin et puis la médecine dès l'antiquité utilise certaines des plantes et l'écrit, le dit, les herbiers commencent à se dessiner et c'est toute cette histoire que nous avons retrouvée dans ce livre.
Et on va feuilleter votre herbier Stéphane Marie, le lin, l'aloe vera, pâquerette, pissenlit, ces plantes ne sont pas là seulement pour faire joli. À tout de suite.
On est bien entre curieux.
Vous écoutez RTL.
RTL.
Tout passe par les plantes. Enfin, les plantes, c'est tout. Et donc, finalement, on n'a pas fait beaucoup d'études, mais il y a des choses qu'on y sait. On est des voitures didactes.
La curiosité est un vilain défaut.
T'as déjà vu un sanglier chez le dentiste? Ah bah non. Il connaît les plantes à fleurs. Il les connaît, oui. T'as jamais vu un chamois avec une maladie de peau? Bah non. Un blaireau avec un problème de poils? Bah non. La santé par les plantes pour retrouver ses racines.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
La santé par les plantes, selon Serge Papagali, humoriste dauphinois. Merci André Facetta pour cette belle mise en onde et bienvenue dans votre jardin. Il est très fort André. Ouais. Vous ne le regarderez plus jamais comme avant après avoir écouté notre invité Stéphane Marie, le jardinier de Silence à Pousse sur France 5. Vous publiez un herbier passionnant. C'est l'herbier de Gherardo Cibo aux éditions du Chêne. C'est qui Gherardo?
Ben, c'est un arrière-petit-fils de pape. Déjà, c'est assez rigolo, je trouve. C'est l'arrière-petit-fils d'Innocent VIII. Et à l'époque, les papes, c'est pas comme aujourd'hui, hein, et ça se passe autrement. Et donc, ce monsieur est un excellent peintre et il rencontre un autre monsieur qui est herboriste, qui s'appelle Maccioli, qui est très très fameux dans son époque, en Italie. Et pour lui, il va faire cet herbier qui consiste à décrire, parce qu'à la Renaissance, on repart du naturel, on prend les plantes, on les observe et on les décrit, on les dessine, alors que depuis l'Antiquité, on reproduisait ce qu'on avait vaguement vu de livre en livre.
Donc là, on va dans la nature et on reproduit cette nature.
Absolument.
Et c'est pour ça qu'on découvre, par exemple, le dessin et du lin. Alors pour nous, le lin aujourd'hui, c'est souvent un tissu un peu onéreux dont on fait des housses de couette, par exemple. Mm-hmm. Mais le lin, ça ressemble à quoi, Stéphane Marie?
Le lin, c'est une fleur. Le lin qui est ici, c'est un lin vivace. Celui que nous connaissons dans les prairies de Normandie ou d'ailleurs, c'est un lin annuel. Et c'est une petite tige gracile, comme ça, avec des toutes petites feuilles lancéolées, toutes petites, toutes fines, et qui fleurit comme ça pendant quelques jours, le matin, de 8h jusqu'à 11h. Et le champ est bleu. Et c'est un océan de bleu. Et évidemment, cette plante est utilisée depuis l'Antiquité.
Et alors, pour quelle pathologie, Sainte-Marie?
D'abord, à des fins textiles.
Ah oui, ça en
c'est-à-dire que d'abord, c'est la fibre du lin qui nous intéresse. C'est avec ça qu'on va faire du linge. Oui. Le linge. Et puis ensuite, on va utiliser ces graines Alors, ce qui est amusant dans ce livre, c'est qu'on s'aperçoit qu'au XVIe siècle, on utilise telle plante pour faire telle autre, telle chose. Au XIXe, on dit que tout ça ne marche plus. Et qu'au XXe, tout à coup, eh bien oui, l'huile de lin, est riche en oméga 3 et on va s'en servir en homéopathie, on va s'en servir dans l'alimentation.
Ça, c'est son utilisation actuelle. D'ailleurs,
évidemment,
on peut même manger des graines de lin. Maman, elle m'a donné ça l'autre jour. Elle m'a dit, tiens, mets des graines de lin dans ton yaourt.
Ou dans le pain.
Vous avez une bonne maman, hein,
ouais,
souvent, je pense. C'est bien, elle s'occupe de vous.
Si vous saviez le nombre de choses qu'elle dépose chez moi, de la poudre de raisin.
C'est mignon. Elle vous appelle combien de fois par jour, votre maman, Sidonie Bonnec?
Une seule
vous
fois.
Vous voulez qu'on en parle?
Enfin, je décroche qu'une seule fois. Il sert à quoi ce lin? Il est riche en oméga 3, c'est ça?
Il est riche, voilà. Ça s'appelle les alpha-linoléniques, c'est des acides gras, c'est riche en oméga-3 et c'est quelque chose qu'on va utiliser pour combattre le cholestérol.
D'accord, bon. Et le lin, on peut aussi l'utiliser pour lutter contre la difficulté d'uriner due au calcul. J'ai lu ça aussi.
Oui, voilà, ça c'était les anciennes utilisations. On peut même l'utiliser en broyant les feuilles contre les taches, dans les graines, contre les taches de cimetière.
C'est quoi
vous
ça
savez, mais si, enfin, c'est, on dit ça chez les, enfin, on dit ça à la campagne. C'est-à-dire que quand vous avez les taches de vieillesse, ah, bah on oui. appelle ça des taches de cimetière, ouais, c'est encore plus rigolo. Et c'est donc, c'est très très gay. Et donc, en onguant comme ça sur ces ouais. taches, ça les fait disparaître, entre autres. Et mais en fait, ce qui est, voilà, à une époque, on va dire que c'est excellent contre la dispersion des inflammations, voilà, éventuellement s'en servir contre les hémorroïdes. Et puis si, on oublie.
Et le pissenlit, Stéphane-Marie, ça c'est une mauvaise herbe, une plante adventice, pardon.
Adventice.
Où est-ce qu'on peut l'utiliser? Est-ce qu'elle a des vertus spécifiques?
Primo. Faisons le point. Du pissenlit, vous pouvez en acheter sur le marché. Oui. Vous pouvez en acheter chez un maraîcher.
Ah ouais.
La barbe de capucin, c'est un ortie blanchi. Enfin, personne ne mange plus ça, mais c'est excellent. Et c'est un peu comme le chicon, la racine, c'est un peu comme le chicon de la chicorée.
Oui.
C'est une grosse racine fortifiante qui a eu diverses utilisations. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que le printemps venu, en février, quand apparaissent les pissenlits, je fais ma cure. C'est-à-dire que quand arrive l'été, oui. il faut remettre le foie d'aplomb. Et donc, une salade de pissenlit.
Ah, ça nettoie le foie.
Ah ben oui, il faut faire une cure pendant une semaine, il faut en manger quasiment tous les jours ou tous les deux jours. Et c'est, mais je me sens revivre. C'est fortifiant.
C'est bien noté, docteur Marie.
Secret, merci.
Dans un instant, on découvre les secrets du petit houx de Noël et de l'olivier de nos étés.
Vous écoutez RTL.
Bonjour, bonjour. Oh là là, mais elle est triste tout ce studio. Hein.
Ah,
allez-y,
encore.
On va le végétaliser.
Oui.
On va planter des Pinocchus vulgaris, des vulvettes des prés, des roubignoles burnacées, quelques popoles des champs et des Alinus duhamelis qui se plantent tout le temps.
Génial.
Stéphane-Marie version Laurent Gérard dans la matinale d'Yves Calvi. Toutes ces plantes n'existent pas, malheureusement.
Les vulvettes n'existent pas.
Dommage, quel dommage.
Mais c'est vrai que vous végétalisez.
Je végétalise.
Ça, c'est bien trouvé. Bon, grâce à vous, on découvre le pouvoir des plantes, Stéphane-Marie. Et puis alors, c'est d'époque, hein, on va parler du houx, le petit houx de Noël. Il n'est pas seulement décoratif dans les jardins ou sur les tables de Noël. À quoi il peut servir pour nous
en
soigner?
En fait, ce petit houx, il faut le distinguer du houx ilex aquifolium,
oui.
donc qui est l'arbre qu'on coupait autrefois, qu'on mettait dans la maison pour célébrer Noël. Là,
d'accord.
il s'agit d'un petit, d'une plante vivace, d'un arbrisseau. Ça fait des tiges qui font 50-60 cm de hauteur.
Mm-hmm.
Et alors, ce qui est particulier, c'est que sous la feuille, pouf, il y a les petites boules rouges qui sortent comme ça. Et c'est très, très joli. D'où le nom petit houx. Mais ce petit houx, en fait, il a eu des tas de vertus. Il a des tas de vertus, notamment sa racine. Alors, il est donné comme diurétique. Les jeunes pousses se mangent en asperges, alors que je pense que la plante adulte peut être toxique.
Ça, c'était avant, on est d'accord, hein, dans l'Antiquité.
Oui, voilà, ça, c'était
au Moyen Âge.
Avant, en 1836, il est décrit comme ayant un usage intéressant sur le foie, sur la rate, sur les viscères. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, il est utilisé comme un vasoconstricteur pour alléger les jambes lourdes.
Ah oui, c'est
donc
vrai.
Il est toujours... Alors c'est drôle parce qu'on retrouve des choses, ça s'affine, ça s'aiguise, on en sait plus long sur les molécules et pour le coup, certaines plantes continuent d'être utilisées à des fins mieux éclairées.
J'ai lu de houx aussi avec maman, je vous jure, c'est pas une blague.
Il y a encore question.
Ça suffit.
Je suis en train de faire toute ma pharmacie.
Mais sous quelle forme? Donc là, si Denis l'a dit, sous forme de gélules, ça s'ingère,
là,
ça peut être des onguents, ça peut être...
C'est souvent sous des formes de gélules,
ouais.
En tout cas ça s'achète, il ne faut pas s'amuser à faire soi-même toutes ces choses-là.
Oui, et bien suivre les recommandations, effectivement.
Absolument.
Soit d'une naturopathe ou d'un naturopathe, soit d'une ou d'un pharmacien.
Alors, dans l'herbier de Gerardo Cibo que vous publiez, Stéphane-Marie, aux éditions Duchesne, on y admire aussi l'olivier, la feuille d'olivier. Elles sont aussi beaucoup utilisées en phytothérapie aujourd'hui?
Certainement beaucoup moins. Je pense qu'on parle beaucoup plus de l'olive qu'on parle de la feuille d'olivier,
ouais.
sachant tout de même qu'elle était utilisée de manière en collyre.
Oui.
Pour apaiser les irritations des yeux des enfants. C'est des choses qu'on n'imagine pas du tout aujourd'hui.
Ça, c'est ce que faisaient nos ancêtres.
Oui, oui. Ils faisaient quoi ?
Macérer les feuilles d'olivier pour en faire
une huile essentielle.
D'accord.
Certainement, enfin une huile. ou une macération, de façon à obtenir un principe dans lequel les éléments, les éléments essentiels, aller pouvoir apaiser les yeux des enfants. On l'utilisait aussi, on broyait les feuilles et on faisait une sorte d'emplâtre qu'on mettait.
Avec du miel, c'est ça?
Pour soigner. Non, on emploie un emplâtre. Ah, oui. Là, le miel, ça va être lorsque ça va être consommé.
D'accord.
Et là, c'était plutôt quelque chose comme une pâte pour soigner la peau, les ulcères et faire tomber les escarres.
Sympathique comme discussion de 14h50 sur RTL, Stéphane Marie. Faut quand même rappeler que toutes ces plantes, elles ont si on en parle, c'est qu'elles ont des effets actifs et qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec elles. Une plante, ça peut être dangereux aussi.
Bien sûr qu'une plante, ça peut être dangereux. C'est souvent d'ailleurs le fait de sa dangerosité qui participe à ses principes actifs.
Ben oui.
Sauf que c'est justement là où ça nécessite des connaissances, là nous évoquons dans ce livre, nous évoquons ce à quoi ces plantes ont servi dans le temps. Et de manière souvent différente. C'est-à-dire que les antiques n'utilisaient pas certaines plantes pour les mêmes usages. Mmh. Et souvent, ensuite, quand la pharmacopée s'est mise en place, on a mélangé certaines plantes les unes et les autres. Toutes ces choses se sont élaborées. Donc, on évoque, mais surtout, nous n'incitons pas les gens à l'usage. Mmh. Et je tiens à dire que ce livre, je ne l'ai pas fait tout seul. Je l'ai fait en compagnie de Marc Janson, qui est le directeur de l'herbier du Muséum d'Histoire Naturelle, et de Dany Sotto.
Bravo à eux. C'est un très bel herbier.
Mais moi, j'ai une question. Que faire de l'adorable pâquerette et du piquant à l'aloe vera? Réponse tout de suite sur RTL.
On est bien entre curieux sur RTL. Votre après-midi sur RTL. 14h, la curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Chaque jour, on répond aux questions qu'on se pose tous et à celles qu'on ne se pose pas.
Autour d'intervenants passionnés et donc passionnants.
15h, on est fait pour s'entendre. Flavie Flamand.
Des thèmes qui nous concernent tous, de l'interactivité, mais des rires aussi.
À 16h, retrouvez Laurent Ruquier et les grosses têtes.
Vous faire rire en répondant à des questions culturelles ou des questions sur l'actualité, c'est le plaisir quotidien des grosses têtes sur RTL.
Vous êtes bien sur RTL.
RTL, première radio de France.
14h-15h.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne.
Les plantes ont du pouvoir, on découvre, on redécouvre leurs bénéfices avec Stéphane Marie, la main verte de Silence à Pousse sur France 5 tous les vendredis à 22h20. La pâquerette que l'on découvre dans votre herbier, c'est pas une simple midinette des jardins, pas du tout. Elle a longtemps permis de soigner 1000 maux.
Elle est toute mignonne,
elle
la pâquerette.
Mâcher
les feuilles, les feuilles et les boutons de la pâquerette, ça va permettre de faire disparaître les pustules, les écorchures de la bouche ou de la langue.
Mais ça, c'est aujourd'hui.
Ça marche encore.
Ça fait surtout les dents jaunes et la langue jaune.
Mais non, parce que la pâquerette, faut pas prendre la fleur, le bouton, faut prendre la feuille. C'est différent. Et puis pilée, elle était excellente. Pour les infections génitales, les inflammations génitales. C'est ce qu'on dit. Mais en même temps, tout ça nous dit quelque chose sur la capacité de cette plante à soigner des choses de la peau et des muqueuses. On parle de l'intérieur de la bouche, on parle des muqueuses génitales.
Il paraît même qu'elle soignait les écrouelles, cette pâquerette. Alors, c'est quoi les écrouelles?
Les écrouelles, c'était...
J'ai pas eu.
évidemment, personne n'en parle plus des écrouelles. C'est Louis XIV qui souffrait de ce genre de choses.
Ah oui, donc ça fait longtemps.
Des irritations de la peau qui peuvent aller jusqu'à l'ulcère. Et c'était quelque chose de très, très répandu. C'est un mot, moi, que je ne connaissais pas avant de travailler sur ce livre. Et c'est un mot qu'on peut retrouver, malgré tout, dans certaines notices de laboratoires pharmaceutiques qui vendent des choses en homéopathie. Je ne sais pas, les gens en lisant ça, s'ils comprennent vraiment de quoi il s'agit.
On ne sait pas plus ce qu'est une écrouelle, mais maintenant, grâce à vous, Stéphane Marie, on réapprend l'usage de ce mot. Vous publiez L'herbier de Gerardo Cibo avec Marc Janson, publié aux éditions du Chêne. Ce qui est passionnant dans ce livre, c'est qu'on voit l'évolution de l'usage des plantes à travers les siècles. Est-ce qu'il y a eu une période, peut-être il y a 20-30 ans, où c'était un peu passé de mode? Ou est-ce qu'on a toujours cherché quand même à prendre dans ce qu'ont les plantes, leurs usages actifs et en faire une médecine?
Je pense qu'en fait, dès l'Antiquité, on a comme ça décelé, on a noté l'usage possible des plantes. Oui. Ensuite, à la Renaissance, on a repris ce travail, on l'a affiné. Au 19e siècle, on a inventé la médecine moderne, a un peu évacué tout ça au bénéfice de la chimie. Oui. C'est arrivé jusque il y a pas si longtemps que ça. Et puis, faut pas oublier que l'aspirine, ça vient de la salixine, que c'est le saule. Mais sûr. En même temps, qui vous parle de salixine et de saule quand vous prenez du paracétamol ou enfin voilà bien l'équivalent sûr, ouais. de ça pour les ouais. maux de tête. Et puis, on a beaucoup parlé tout de même des molécules des plantes qui servent et qui sont reproduites, voire imitées, à des usages, enfin, dans la pharmacopée d'aujourd'hui. Donc, pourquoi faire du faux quand on peut avoir du vrai?
Vous vous soignez, je vous interromps, avec un ou une naturopathe? Utilisez l'allopathie prioritairement?
Non, moi je prends des tisanes de thym quand j'ai des infections, ça s'arrête à peu près à ça, je fais des tisanes vaguement de temps en temps.
Plutôt efficace pour les maux de gorge, c'est vrai.
Voilà, je suis un très mauvais malade en fait, j'ai envie d'être guéri immédiatement.
Il y a une des plantes stars en ce moment, c'est l'aloe vera.
Ah, c'est vrai, ça.
Alors déjà, avant de dire à quoi elle sert vraiment, elle ressemble à quoi? Parce que c'est l'objet de votre herbier.
Enfin, ça pique.
Alors, c'est un petit cactus.
Ce qui est à noter, c'est que c'est la seule plante qui soit en pot. C'est-à-dire que là, on est dans un peuple de cueilleurs. Ces gens-là vont dans la campagne, ils cueillent des choses. Ils arrachent les plantes, ils tirent les racines, ils nous montent la plante en entier. Et là, tout d'un coup, celle-là, elle est représentée dans un pot. Parce que c'est pas une plante, c'est une plante qui est gélive.
Ça veut dire quoi ?
Donc, qui va geler.
Ah.
C'est-à-dire qu'à 0 degré, elle devient toute molle, c'est une espèce de chose de flotte toute pourrie. Sauf que mais c'est justement parce qu'elle est pleine d'eau, d'une sorte de gelée, qu'elle va être excellente aujourd'hui. On l'utilise toujours pour soigner les brûlures, pour soigner les plaies. C'est-à-dire que vous prenez la feuille d'aloe vera, vous coupez la peau, il faut surtout enlever la peau, vous mettez en cataplasme l'espèce chair,
exactement.
Comme une gélatine,
oui.
Et ça apaise et c'est formidable.
Oui, mais Stéphane-Marie, vous dites vous coupez une branche, une tige, mais on peut faire pousser ça dans notre jardin oui. ou même dans notre appartement, l'aloe vera ?
Sur la terrasse pendant la belle saison, puis dès qu'il fait froid, il faut le rentrer dans l'appartement. C'est une plante grasse.
Une petite question, réponse rapide. Vous rentrez de Hong Kong, pourquoi ?
Parce que nous sommes allés tourner deux émissions spéciales qui seront diffusées le 12 et le 19 janvier. C'est formidable, il faut que vous soyez tous là.
Mais il y a de la verdure à Hong Kong ? Il n'y a pas que des immeubles ?
Eh bien justement, oui. En compagnie de Patrick Blanc, nous sommes allés voir comment, depuis le pic, là-haut, il y a quasiment une forêt primaire, un peu dérangée, mais primaire tout de même, jusque dans les rues, le végétal trouve sa place.
Est-ce que vous êtes parti avec votre belle plante, carotte de lila ?
Oui, elle est venue nous rejoindre et nous avons...
Votre co-présentatrice de Silence ça pousse, qu'on peut regarder tous les vendredis sur France 5 à 22h20. Et puis cet herbier magnifique, l'herbier de Gerardo Cibo aux éditions du Chêne, écrit avec Marc Janson
et Dany Soto.
Et bien sûr.
Merci beaucoup Stéphane, c'est un très beau livre, c'est un bonheur de le feuilleter tellement les illustrations sont magnifiques.
Vous écoutez RTL.